1946. 2 octobre 1998, 18h10. Marc regagna sa place. Il passa silencieusement devant l'adolescent aux écouteurs toujours vissés sur ses oreilles et le type endormi qui avait fait tomber ses deux Doc Martens sous le siège. Le Rouen Dieppe traversait Longueville sur Scie et les derniers pommiers disparaissaient à nouveau dans un océan jaune de maïs et de colza. Ils arriveraient à Dieppe dans moins d'un quart d'heure. Marc s'installa et but avec avidité plus de la moitié de la bouteille de San Pellegrino. Il s'assura que le Moser était toujours rangé dans sa poche, puis lança un regard vers le fond du compartiment. Malvina, prostrée, n'avait pas bougé. Marc sortit avec fébrilité le cahier de Grand-Duc. Il avait pris la décision de terminer la lecture d'une traite. Il restait moins de 5 pages. Tout allait trop vite. S'il ne voulait pas devenir fou, il devait gravir les unes après les autres les marches de cette spirale infernale, aussi calmement que possible, même s'il ignorait où le menait cet échafaudage de mystère. Lorsqu'il aurait refermé ce cahier, il serait temps de réfléchir aux révélations de Malvina, cet ultime rebondissement que Grand-Duc avait sorti de son chapeau avant d'être condamné définitivement au silence. Journal de Crédule Grand-Duc. Mathilde de Carville me fit sa demande en toute simplicité, dans le courant de l'année 1995. Comparer l'ADN du sang de la petite Lily Vitrale à celui de toute la lignée des Carville. Je possédais des relations dans la police scientifique. Elle savait également que j'étais devenu intime des Vitrales. Mettez-vous à ma place. Comment refuser ? Pas facile, vous comprenez, d'être accueilli le soir chez les Vitrales comme l'ami de la famille, puis d'aller tout raconter le lendemain aux Carville. Le cul entre deux chaises, si vous préférez. Mais passons. Une fois de plus, vous vous en foutez de mes états d'âme d'espion dépressif. Vous avez bien raison. Si l'on se place d'un point de vue purement technique, je n'allais pas me pointer avec le gâteau d'anniversaire et demander à Émilie Vitrale ou à sa grand-mère un échantillon de son sang. Mon stratagème était assez téléphoné, je vous l'accorde. J'offris comme cadeau d'anniversaire à Lily un soliflore fêlé qui ne manquerait pas de se briser entre ses doigts. Cela fonctionna au-delà de mes espérances. Le vase explosa dès que Lily le tint entre son pouce et son index. Confus, je ramassai les morceaux de verre ensanglantés, les jetai dans la poubelle, sauf ceux que je glissais dans un sac plastique au fond de ma poche. Un jeu d'enfant, ni vu ni connu. J'ai obtenu le résultat du laboratoire quelques jours plus tard. Si je vous dis que j'ai eu des remords, vous en moquerez tout autant. Je le signale juste pour vous expliquer pourquoi j'ai demandé un double à mon contact du laboratoire scientifique. Une seule analyse, 2 enveloppes. Une pour Mathilde de Carville, une pour Nicole Vitrale. Je leur ai remis l'enveloppe bleue en main propre. Égalité. Ainsi, elles connaissent la vérité depuis 3 ans. La science a parlé. Voilà. Je pourrais en rester là, vous dire que j'ai filé les enveloppes aux 2 familles et basta. Ciao les mamies. Débrouillez-vous avec ça. Mais je ne suis pas un ange. Non. Bien sûr que non, je n'ai pas résisté à la tentation. Oui, j'ai lu ce résultat. Vous pensez, 15 ans d'enquête sans aucune certitude. Je me suis précipité sur le résultat comme un forçat qui, après 15 ans de tôle, se rue sur une pute. La métaphore est juste. Un putain de résultat. Dire que ce résultat m'a surpris serait, comme on dit savamment, un euphémisme. J'en suis tombé sur le cul, oui. Celui que j'avais entre 2 chaises. Comme si quelqu'un, là-haut, le Dieu ou la Vierge du Mont Terrible, continuait de se foutre de notre gueule. C'est le résultat des tests, je crois, qui m'a définitivement fait tomber sur le versant de la déprime, qui m'a fait rouler, inexorablement, vers le fond, le trou. Un résultat absurde, risible, a fourré toutes ces années de recherche dans un bûcher et a mijoté aussi, ensuite, faute d'avoir trouvé la sorcière cachée derrière toute cette affaire. Malgré tout, Depuis 1995, je suis resté loyal, tel un vieux chien policier fidèle. J'ai continué l'enquête, péniblement, au ralenti. Nazi m'avait décroché depuis un bout de temps. Il bricolait pas mal au noir et aidait parfois Ella au kebab, boulevard Raspail. En décembre 1997, j'ai entrepris mon dernier pèlerinage au Mont Terrible. Je vous livre là la dernière pièce du puzzle. Pas la moins troublante, vous jugerez. En route pour mon dernier pèlerinage dans le Jura, donc. Je comptais déguster jusqu'au bout mes ultimes plaisirs. La conquayotte, le comté affiné et le vin d'Arbois de Monique Genevèse. Fouler les derniers brins d'herbe, agripper les dernières brindilles avant le plongeon final. Mon pèlerinage, mon Lourdes à moi, tout pareil. Le même miracle espéré qui ne se produit jamais. La dernière idée m'est venue pendant la nuit, dans le gîte. Allez comprendre pourquoi. Sans doute me fallait-il 62 centilitres de vin jaune pour avoir de l'imagination. Mathilde de Carville avait bien eu raison de me donner 18 ans pour enquêter. Il faut croire que je suis plutôt lent à la détente et qu'elle l'avait deviné. Je suis remonté le matin sur le Mont Terrible avec une pelle et un grand sac poubelle. J'ai creusé comme un damné à côté de la cabane, à l'emplacement exact de la tombe. Pendant une heure, 10 kilos de terre, sans tri, rien. Je prenais tout ce qui me venait sous la pelle. J'ai porté le tout sur mon dos comme un forçat, 2 bornes. Arrivé au chemin, Grégory, le beau gosse du parc naturel, m'a redescendu en 4x4 avec le sac. Le lendemain, j'ai salopé le coffre de ma BMW en y hissant les 10 kilos de terre, et j'ai roulé jusqu'à Rosny-sous-Bois pour tout apporter à mon pote de la police scientifique. Pas besoin de vous raconter qu'il faisait la gueule. 10 kilos de déchets à examiner au microscope. Pour chercher quoi? La dernière lubie d'un fou furieux? Jérôme, le pote en question, venait de se coller à charge un troisième môme et un pavillon à bon douffle à rembourser sur 20 ans. Il n'a pas hésité longtemps devant l'enveloppe de billets qui doublait son trimestre de salaire de fonctionnaire de la police scientifique, embauché avec un doctorat et payé à peine le quart du salaire d'un médecin. Ça pouvait bien lui prendre des heures, je m'en foutais. Il m'a rappelé une petite semaine plus tard.
Crédule ?
Ouais.
J'ai joué les jardiniers comme tu le voulais. Tu veux le pH, l'humus, l'acidité de ta terre à la con ? Tu veux y faire pousser quoi ? Un potager pour tes vieux jours ?
Abrège, Jérôme.
Ok. C'est de la terre, crédule. Rien que de la terre.
Il avait un peu hésité avant le rien. Je gardais espoir. Crédule jusqu'au bout. Rien d'autre ?
Si, mais là, on entre vraiment dans le micro-micro. Rien de fiable.
Allez, accouche.
Si tu y tiens. Dans la terre, il y a aussi des débris d'os. Bon, que dalle, des particules, des poussières, quelques grammes. Rien que du très logique dans une forêt. La terre, c'est jamais que du compost, de l'accumulation de divers trucs morts au-dessus.
J'insistais encore. Jérôme Larcher était le meilleur dans son genre, une tronche. Avec sa disposition, le meilleur matériel de France. Des os de quoi, Jérôme ?
Quelques grammes d'os, je te dis, crédule. À partir de ça, scientifiquement, on peut rien dire.
Ok, scientifiquement. Mais toi, tu dirais quoi ? Jérôme Larcher hésita.
Mon intuition, c'est ce que tu veux savoir. Alors, ok. Mais ça ne sera pas dans le rapport, je te préviens. Mon intuition, c'est que je dirais que ce sont plutôt des os humains que des os d'animaux.
Bordel. Des os humains. Je devais le presser encore, le Jérôme. Il n'avait pas donné tout son jus, je le sentais. Il était au courant de l'enquête sur laquelle je bossais depuis ces années. Tu peux dater, Jérôme ?
Non, impossible. Je ne peux pas te donner une fourchette de moins de 10 ans. Tu vois, ça ne va pas te faire avancer.
Dater l'âge du type enterré, je veux dire, Jérôme. Pas l'année de son enterrement. Jérôme marqua un long silence. Je sentais que je n'allais pas aimer la suite.
Crédule, là, on est vraiment dans le domaine du subjectif, de l'impro total.
Passe-moi le préambule, Jérôme.
Ok, ok. Selon moi, ce sont les fragments d'os d'un humain plutôt jeune.
Des gouttes de sueur glacée me dégoulinaient dans le dos. Jeune, comment ?
Ben...
Un gamin ?
Tu chauffes, crédule.
Mon crâne était coincé dans un étau, et chaque mot nouveau comme un tour de vis supplémentaire. Tu veux dire quoi, Jérôme ? Un bébé ? Des putains de fragments d'os de bébé humain ?
Je bosse sans filet, là, je te l'ai dit. La fiabilité, c'est zéro. Mais c'est bien ce que je dirais, oui. Les fragments d'os d'un nourrisson humain.
Bordel. Vous auriez fait quoi à ma place ? Apprendre ça après 18 ans d'enquête ? Franchement, vous auriez fait quoi ? À part vous tirer une balle dans la tête. Les 8 derniers mois ne comptent pas. Ni les 10 derniers jours passés à rédiger ce cahier. Nous y voilà. Nous sommes le 29 septembre 1998. Il est 23h40. Tout est en place. Tout est terminé. Lily va prendre 18 ans dans quelques minutes. Je vais ranger mon stylo dans ce pot, en face de moi. Je vais m'installer derrière ce bureau, déplier l'Est républicain du 23 décembre 1980, le journal de ce jour maudit, et calmement, je vais me tirer une balle dans la tête. Mon sang se mêlera au papier jauni de ce journal. J'ai échoué. Je laisse simplement ce testament derrière moi, pour Lily, pour qui voudra. J'ai recensé dans ce cahier tous les indices, toutes les pistes, toutes les hypothèses. 18 ans d'enquête. Tout est consigné dans cette centaine de pages. Si vous les avez lues avec attention, vous en savez autant que moi. Peut-être serez-vous plus perspicace. Peut-être suivrez-vous une direction que j'ai négligée. Peut-être trouverez-vous la clé, s'il en existe une. Peut-être. Pourquoi pas ? Pour moi, c'est terminé. Dire que je n'ai ni regret ni remords serait exagéré. Mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Les derniers mots. La page suivante était blanche. Marc referma avec une extrême lenteur le cahier de Grand-Duc. Il vida d'un trait la bouteille de San Pellegrino. Le train allait entrer en gare de Dieppe dans 5 minutes maintenant. Comme par enchantement, le type en chaussettes s'était réveillé et l'ado rangeait son baladeur. Marc avait l'impression que son cerveau tournait à vide, comme la roue d'un vélo déraillé. Il fallait qu'il prenne du temps, qu'il réfléchisse, qu'il parle à sa grand-mère Nicole avant tout. Ainsi, elle avait reçu le test ADN. Elle avait appris depuis 3 ans que Lily n'était pas sa petite fille. C'était évident, au fond. Elle avait même avoué, elle avait offert le saphir bleu clair à Lily. Lise Rose avait survécu, pas Émilie. C'était la seule certitude. Pour le reste, qui avait creusé la tombe du Mont Terrible ? La gourmette y avait-elle été enterrée ? Ou un chien ? Un nourrisson ? Quel nourrisson ? Les questions se couraient après dans son crâne aride. Grand-Duc n'en avait résolu aucune. Qui l'avait tué ? Pour dissimuler quelle vérité ? Qui avait tué son grand-père ? Où était Lily ? Un hurlement déchira le silence du wagon. Un cri de démente. Malvina. Marc se précipita avant que le type qui lassait ses Doc Martens ait eu le temps de réagir. Malvina se tenait recroquevillée au fond de son siège. Son corps maigre était convulsé de tremblements. Sa main pendait, ouverte, telle celle d'un suicidaire qui se serait coupé les veines. Le regard de Malvina implora Marc, comme si elle cherchait désespérément de l'aide, comme si sa main ouverte était celle d'une alpiniste, à son compagnon, quelques instants avant de dévisser. Les yeux de Marc descendirent. Quelques centimètres sous les doigts crispés de Malvina, une enveloppe bleue déchirée et une feuille blanche gisaient sur le siège. Marc comprit. L'enveloppe avait dû glisser de sa poche pendant sa lutte avec la fille. Malvina n'avait pas pu résister. Elle avait ouvert le résultat du test ADN. Elle n'était au courant de rien. Sa grand-mère ne lui avait jamais rien dit. Pourquoi alors cette crise de démence ? Marc saisit nerveusement la lettre dactylographiée à l'entête de la police scientifique nationale de Rosny-sous-Bois. L'analyse tenait en 6 petites lignes. Recherche de liens de parenté. Entre Émilie Vitral, échantillon 1, lot 95-233. Et Mathilde de Carville, échantillon 2, lot 95-234. Entre Émilie Vitral, échantillon 1, lot 95-233. Et Léonce de Carville, échantillon 3, lot 95-235. Entre Émilie Vitral, échantillon 1, lot 95-233, et Malvina de Carville, échantillon 4, lot 95-236. Et, une ligne plus bas, le couperet. Résultat négatif. Aucun lien de parenté possible. Taux de fiabilité de 99,9687%. La feuille tomba des mains de Marc. Lily n'avait aucun lien de sang avec les Carville. Lise Rose était morte. Émilie avait survécu. Marc et elle possédaient les mêmes gènes, les mêmes parents, le même sang. En dépit de toutes ses convictions, en dépit de tout ce que son cœur lui dictait, ce désir qu'il éprouvait pour sa sœur n'était qu'une malsaine et maudite pulsion incestueuse.